J'aimerais commencer en fait en vous posant une question. Qui se lève avec une alarme le matin? Lève la main. 1, 2, 3, à peu près la moitié de la salle, à peu près. Moi, je me réveille, j'ai pas besoin de l'alarme. Et qui se lève après avoir entendu l'alarme la première fois? Ah, c'est plus compliqué, il y a moins de mains qui se lèvent. Hein. Le réveil est là, et en fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour se réveiller, pour se lever du lit, parce que on ne se fait pas confiance et on peut traîner au lit parce que on aime ça, surtout le matin et des fois quand du coup aussi la nuit est compliquée ou alors qu'on a veillé très tard. Et ce soir, j'aimerais vous introduire en fait dans une notion qui est assez vaste en fait et j'aimerais juste l'apporter de manière concise. Et j'aimerais vous introduire dans le réveil. Souvent, quand on entend le réveil, c'est très connu en ce moment, surtout chez nous, les pentecôtistes, parce que réveil Azusa Street, réveil pentecôtiste, mouvement baptême dans le Saint-Esprit, visitation, guérison divine, et on entend tout ça. En plus, d'autant plus avec les médias d'aujourd'hui, on a accès en fait à toutes ces émissions, tous ces messages, tous ces enseignements par rapport au réveil en fait. Et même d'ailleurs, j'en mentionne ici, mais... Pourquoi est-ce qu'on parle de réveil? Pourquoi est-ce que, finalement, c'est si important de parler de réveil? Il y en a, je pense, pour ceux qui à peine commencent, on va dire, à marcher avec Dieu, pour ceux qui, d'ailleurs, ne le connaissent pas, quand on va parler de réveil, finalement, ça dit rien du tout, en fait. Mais pour vous qui êtes un peu plus anciens, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais juste peut-être sur le plan historique. Et j'aimerais, en fait, peut-être rétablir et essayer de définir, en fait, ce que c'est que le réveil. Et premièrement, en disant pourquoi c'est important. Pourquoi, d'après vous, parce que vous êtes posé cette question, pourquoi le réveil, c'est important? Quand vous levez le matin, vous mettez le réveil, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rater votre rendez-vous. Parce que vous savez qu'en fait, il faut que vous alliez au travail après ou que vous avez des choses à faire. Vous avez un certain timing à respecter. Et pour nous, le réveil religieux, le réveil spirituel, le réveil dont la Bible parle, nous parle, en fait... C'est une chose importante parce que nous en sommes le fruit. Si un jour Chant se présente ici devant vous, en train de parler de réveil, c'est parce qu'un jour quelqu'un est venu réveiller et a parlé de Jésus-Christ. Si un jour vous vous tenez juste devant moi parce que vous êtes des croyants qui croient en la puissance de la prière, c'est parce que quelqu'un auparavant a parlé de Jésus-Christ, quelqu'un de réveillé. Aujourd'hui, en fait, nous sommes le fruit des gens qui ont prié pour nous. Nous sommes le fruit des gens qui ont témoigné de l'amour de Christ. Parce que des gens ont pris la décision de se réveiller. Et on sont allés au-delà de ces choses. C'est ça le réveil. Et je pensais au début, en fait, un petit peu, je n'étais pas tout à fait exact, en fait, je pensais que le réveil, c'était avec Charles Parham, dans les débuts du XXe siècle, aux États-Unis. Mais en fait, on parle des revivalistes, juste pour en citer deux, les deux premiers, Jonathan Edwards et George Whitefield. Mais on ne parle pas, en fait, finalement, forcément de pentecôtisme. À ce moment-là, on parle d'un réveil religieux et je vous invite en fait à faire ces recherches sur Jonathan Edwards et George Whitefield, les frères Wesley, vous connaissez, qui ont amené le réveil avec la dénomination des méthodistes. Et je veux juste en fait introduire au travers de ce passage qui se trouve dans Luc, la notion de réveil. Luc, au chapitre 24, et au verset 13, jusqu'au verset 35. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. D'après la Louis II, c'est une douzaine de kilomètres. Et s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas retrouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'il fut arrivé près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais ils disparurent de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Pour poser le contexte, juste un peu pour resituer, nous sommes juste après la mort de Jésus-Christ. Donc, finalement, le passage le signifie, le met en lumière. Jésus est mort, on l'a livré. Puis on l'a mis au tombeau. Et trois jours plus tard, le tombeau est vide. Puis des femmes sont allées au sépulcre, puis sont revenues avec la bonne nouvelle parce que les anges ont dit, « Mais qui cherchez-vous ? Celui qui était dans ce tombeau est ressuscité. » Ils sont retournés en parler aux autres disciples. Puis Pierre et Jean, les disciples de Jésus, sont allés voir de leurs propres yeux et ont aussi constaté la même chose. Et ça, c'est juste avant le passage que je vous lis. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs ont entendu le témoignage de ces femmes, de Pierre et de Jean, qui disaient que le tombeau était vide. Et ça, c'est incroyable. Parce que ils ont voyagé avec Jésus pendant à peu près 3 ans. Ils ont écouté les enseignements. Ils ont été là avec lui. Ils ont vu les prodiges et les miracles. Et lorsque Pierre est arrivé avec la révélation de Jésus-Christ, le Messie, et là, Jésus arrive et enseigne du coup qu'il doit mourir, souffrir pour le salut de tous. Là, ils n'ont pas compris. D'ailleurs, personne n'avait compris. Mais ça a été annoncé plusieurs fois. Et même quand ça arrive que Jésus meurt, ils ne comprennent pas. Et même lorsque les femmes, et Pierre et Jean, leur ont témoignage du tombeau vide, des anges qui ont dit « Jésus est ressuscité », ils ne comprennent pas et quittent Jérusalem pour aller vers où ? Emmaüs. Ce sont des gens qui ont écouté, qui ont été témoins de tellement de choses et pourtant dans leur tête, c'est la confusion. Comment peut-on croire ? Parce que nous, ce qu'on a retenu, c'est on vient de Jérusalem et Jésus est mort. Et lorsque Jésus arrive et qu'il n'arrive pas à le reconnaître, il a dit, mais de quoi discutez-vous ? Et les deux disciples qui étaient en chemin vers Emmaüs disent, mais t'es pas au courant ? Mais t'étais pas à Jérusalem ? Mais c'est un fait connu ! Mais c'est de partout, sur Instagram, sur Facebook ! Et toi, tu n'es pas au courant et tu nous demandes ce qui s'est passé. Mais Jésus, il est mort. Celui qu'on croyait qui allait libérer le peuple d'Israël. Ils le disent au verset 21. Ils disent, nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël. Et juste avant, au verset 19, Les deux disciples répondent à Jésus ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Voici ce qu'ils ont retenu de Jésus-Christ. C'était pour eux le Messie qui faisait un enseignement plein d'autorité, qui faisait des grandes œuvres. Mais pour eux, même si Jésus leur enseignait qu'ils devaient mourir sur la croix, c'était juste inconcevable, même quand cela se passait. Et quand cela se passe, ils sont complètement déstabilisés. C'est incroyable. Et parfois, on a un peu ce côté de Dieu à notre image. On est déçu, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'être déçu de Dieu. Parce qu'il ne nous a pas exaucés. Parce que les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. La porte qu'on aurait voulu, qui s'ouvre, ne s'est pas ouverte, alors qu'on désirait tant. Jésus ne nous a pas exaucés. Dieu ne nous a pas exaucés. Et pourtant, toutes les promesses de Dieu sont là. Demandez, vous recevrez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Toutes ces promesses bibliques, tous ces enseignements, mais c'est incroyable. Mais toute cette confusion dans notre tête, alors qu'on apprend, alors qu'on connaît la Bible. Dieu tout-puissant, mais il n'est pas capable de m'ouvrir ce chemin auquel j'aspire. Et peut-être que notre déception vient du fait qu'on a fait un Dieu à notre image. Et qu'au plus profond de notre cœur, on a cherché non pas à connaître le Père, mais à connaître la main du Père. À chercher plus les bénédictions qu'à trouver la personne du Père. À savoir qui il était vraiment. À savoir quel était son plan. Est-ce qu'on peut jeter la pierre à ces deux disciples? Je pense pas. Parce que eux aussi étaient enseignés dans la Torah, dans les choses anciennes. Et quand ils entendaient, quand le peuple d'Israël était dans la difficulté, Dieu suscitait un juge, Dieu suscitait un homme, Dieu suscitait un prophète, Dieu suscitait un héros qui délivrait le peuple d'Israël. Pourquoi ça se passerait pas encore cette fois-ci? Et nous encore, on entend des témoignages de Dieu a guéri de cancer, Dieu a ouvert des portes vers tel travail, Dieu a fait tant de choses, et merci Seigneur, et gloire à Dieu. Et en fait, on voudrait faire ces choses-là nôtres, au lieu qu'en fait, on donne gloire à Dieu. On s'est dit, mais un tel a été guéri miraculeusement du cancer, et puis moi, le proche que j'ai est atteint d'un cancer et souffre. Et on voudrait que ça se produise. Et il faut espérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas espérer. On a un grand Dieu. Mais dans toutes ces choses, des fois, on lit la parole de Dieu un peu et on retient un peu les choses qui nous intéressent. Et on se perd dans tout ça. C'est pour ça que Jésus est capable de dire « Homme sans intelligence ». Dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et pendant tout ce chemin de 12 kilomètres, Jésus a dû leur enseigner Moïse, les Écritures de Moïse, jusqu'à toute l'histoire, pour leur dire, mais à ce moment-là, j'extrapole, parce que ça a été dit en quelques lignes, mais ces moments-là, ça parle de moi, ça parle du Messie. Ne devait-il pas mourir pour le salut des âmes? Le Messie était là pour la libération, oui, du peuple d'Israël, mais pas de la servitude de l'Empire romain, mais du péché, de la condamnation, de la mort, qui mène à la mort éternelle. Et ça, ils n'avaient pas compris. Il fallait que Jésus leur re-raconte ça. Il fallait que Jésus leur réenseigne ça. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors qu'il parlait tout ça, il continuait à parler parce que je pense que c'est quand même très très lent parce que du coup, le soleil se couche. D'ailleurs, c'est un peu comme là. Sauf que vous n'avez pas entendu mon enseignement depuis 8 heures du matin peut-être. Vous serez peut-être déjà endormi. Il rompt le pain et partage le repas. Et juste à ce moment-là, les yeux s'ouvrent. Versets 30 à 32, je le relis. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Notre cœur ne doit-il pas brûler lorsqu'on entend la parole de Dieu ? Notre cœur ne doit-il pas brûler lorsqu'on se dit, mais ce soir ou ce matin, je vais lire la parole de Dieu, je vais essayer de comprendre, d'écouter ce que Dieu veut me dire. Mais Seigneur, dans cette difficulté-là, alors que tous les chants qui ont été chantés, vous avez entendu, tu es mon soutien, tu es ma force, tu es l'Éternel, tu es là dans mes problèmes, tu es là dans mon désert. Dieu veut se révéler. Et dans toutes ces choses, on a besoin de connaître plus Dieu que de connaître, on va dire, la main de Dieu. Ça me rappelle l'histoire de Job, que vous connaissez, je pense, pour certains. Pour ceux qui ne connaissent pas, Job, c'est la personne la plus pieuse, enfin, une des personnes les plus pieuses en tout cas, super intègre, mais qui a été touché dans sa santé et dans sa famille. Il perd tous ses enfants. Sa femme, alors qu'il est malade et pas bien, lui dit « Maudit Dieu, ressuscite-toi ». Et jusqu'au bout, il demeure intègre. Il exprime « Ok, sa souffrance ». Mais Dieu, sa solution, il ne dit pas « T'inquiète, je vais te relever. T'inquiète, je vais te rétablir. T'inquiète, je suis là avec toi. » Non, la réponse de Dieu, mais tu étais là quand j'ai fait les animaux, mais... Tu étais là quand j'ai fait la création ? Est-ce que c'est toi qui étais là dans les moindres détails des choses que j'ai faites ? Toute la sagesse humaine. Et Dieu était en train de montrer à Job, en fait, toute la puissance, la sagesse de Dieu, des choses qu'on ne comprend pas. Et Job était là, n'était pas là en train de dire, « Ah ouais, non, mais Seigneur, là, on parle de mon problème à moi, là. Genre, j'ai un ulcère, ma femme... m'a un petit peu rejeté, j'ai perdu un peu tous mes enfants, et toi, tu me parles de la création. Il n'y a pas un problème quelque part là ? Il n'y a pas un... Non. Toute l'attention de Job était sur Dieu. Toute l'attention était portée sur Dieu. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je te fais confiance, parce que c'est toi qui as fait dans les moindres détails les choses, les circonstances par lesquelles on peut passer, c'est toi qui les gères, parce que tu es mon Dieu. Encore plus, tu es mon Père, parce que je t'ai accepté comme Sauveur et Seigneur. Verset 33. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Après avoir compris toutes ces choses, ils sont retournés à Jérusalem. On a compris. C'était dur à entendre et à comprendre. Pourtant, des personnes nous ont témoigné que le tombeau était vide, qu'on nous a témoigné, que des anges ont témoigné à ces personnes que Jésus-Christ était ressuscité, qu'il fallait qu'il entre dans sa gloire. Il fallait qu'il vive toutes ces choses pour nous libérer. Et peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris, parce qu'il y avait peut-être que 12 kilomètres pour tout un enseignement qui était très vaste. Et nous, on est dans ce cas-là. On ne comprend pas forcément tout. Et peut-être que Dieu ne demande pas à ce qu'on comprenne tout. Mais il demande à ce qu'on lui fasse confiance. Et c'est ça le réveil. Souvent le réveil, on va dire, il y a une visitation fantastique, c'est des très grands rassemblements de centaines de millions de personnes. Alléluia, gloire à Dieu, j'aspire à ça. Mais, et on croit qu'en fait, c'est que des guérisons, que des prodiges et des miracles. C'est quelque chose d'extrêmement visible. Comme pour la France avec Douglas Scott. Avec Seymour, Azusa Street, Los Angeles, le réveil pentecôtiste, les parler en langue, la visitation du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Mais ça, c'est que le fruit. En fait, le vrai réveil, il est juste là, dans notre cœur. Si on peut en voir le fruit, c'est parce que dans notre cœur, ça a travaillé. Si les disciples d'Emmaüs qui étaient perdus dans leur intelligence, dans leur raisonnement, dans toute leur connaissance, c'était parce qu'en fait, dans leur cœur, ça n'y était pas encore. Il a fallu que Jésus soit au milieu d'eux et ravive ces choses-là, leur fasse comprendre, et que le Saint-Esprit nous éclaire à comprendre l'essentiel. à comprendre que je suis enfant de Dieu et que j'ai besoin de me réveiller. Vous-même, vous mettez un réveil à côté de vous pour vous lever le matin de votre lit. Que nous, on puisse se réveiller de notre endormissement spirituel peut-être et de voir au-delà des choses que l'on peut vivre. Et c'est important. La Bible ne dit pas de négliger les choses que l'on vit, les combats que l'on vit, mais nous encourage surtout à nous focaliser sur Dieu. C'est ça l'équilibre. C'est pas ne se concentrer que sur nos problèmes personnels. Et c'est humain, et on le fait, et je le fais. Mais Dieu nous invite à dire, tu vois tes problèmes ? Lève un peu ta tête. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. Le réveil vient dans notre cœur. C'est ce retour à la soif de Dieu, c'est le connaître lui et de faire sa volonté. Mais c'est quoi la volonté de Dieu ? C'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Est-ce qu'il ne le dit pas lui-même ? Tout ce que vous aimerez que l'on fasse pour vous, vous faites de même, car c'est la loi et les prophètes. Quels sont les deux premiers commandements les plus importants ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, tes pensées. Et ton prochain, comme toi-même, ça c'est le deuxième qui le suit, juste pas loin derrière. Comment aimer Dieu ? En le cherchant de tout notre cœur. Ne cherchant pas sa main, mais cherchant le cœur de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté ? Que veux-tu me dire encore aujourd'hui ? Ouvre-moi mes yeux pour que je ne sois pas dans le raisonnement, mais que je cherche vraiment qui tu es. Et qu'au temps de la détresse, je puisse me rappeler qui tu es. Et c'est en cherchant dans de tout notre cœur que ces deux disciples sont arrivés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est la fin de l'évangile de Luc, on n'y est plus. On est sur le début des Actes. Les 120 sont réunis. Ils ont entendu la dernière chose. Attendez-moi à Jérusalem et je vous enverrai le Consolateur. La promesse. Je ne sais pas ce que c'est que la promesse. Je ne comprends pas vraiment comment ça peut se manifester de manière visible. Mais ce n'est pas grave. J'obéis. Je vais. Et je vais rejoindre les autres qui ont à peu près compris, mais qui ont confiance, surtout, aux paroles de Jésus et qui se tiennent là et qui persévèrent. J'ai marqué dans Actes 1, 14, ce verset important. Tous, c'est les environ 120, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous ceux qui avaient compris, tous ceux qui avaient confiance en Jésus-Christ étaient rassemblés là et ils persévéraient dans la prière. Souvent, nous sommes dans le faire de l'action et des œuvres, mais on oublie un petit peu la prière. On se dit, mais comme je fais, c'est pas grave, les autres prieront pour moi. Comme je fais, c'est pas grave, Dieu me bénira parce que je suis dans ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais en fait, dans les choses que Dieu a demandé de faire, c'est un Dieu de relation, donc c'est de passer du temps aussi avec lui. Et on passe du temps avec lui comment ? Dans la prière. Dans la prière de son culte personnel, comme dans la prière dans la communauté. Et tous persévérer. Le mot persévérance, ça ne veut pas dire que c'est facile. Souvent, quand on dit persévère, ça ne veut pas dire ouais, finger in the noise, pocket in the hand, pardon, les doigts dans le nez, main dans la poche. Non. Persévérer, ça demande un effort. Et souvent, l'effort, ça va être faire plein d'actions, mais en fait, je vais juste oublier l'essentiel, c'est qu'en fait, quand il y a les moments comme ceux-ci, le mardi soir, ou comme quand il y a les jeunes qui sont qu'une seule fois par mois, et qu'on n'arrive pas à se déplacer pour mener le combat, et qu'on a perdu le pourquoi du comment Toulouse-Ouest, pourquoi Dieu nous a placés ici. Ne devons-nous pas briller ici, au milieu des quartiers des Pradettes, Ne devons-nous pas prier pour les gens qui sont perdus au dehors? Avons-nous oublié à quel point nous sommes sauvés, à quel point l'amour de Dieu nous a touchés? Nous contentons-nous juste d'en fait de dire « Je viens le dimanche, je viens éventuellement le mardi, je viens éventuellement pendant le jeûne et prière, et je viens éventuellement à la réunion de jeunesse, et je vous encourage à venir à la jeunesse, les jeunes. » Mais juste pour recevoir. Non, je viens le mardi soir pour participer, pour persévérer dans la prière. Je viens le dimanche matin pour persévérer dans la communion fraternelle, pour rendre gloire à Dieu. Je viens dans le jeûne et la prière le samedi une seule fois par mois. Pour la gloire de Dieu, pour mener le combat, pour prendre des victoires. Et ça, je veux le croire. Et si je suis incrédule, alors Seigneur, chasse l'incrédulité. Seigneur, Saint-Esprit, convainc-moi de ta puissance. Convainc-moi que tu peux tout, alors que je me mets en disponibilité pour toi et que je prie. Je chasse au loin ma timidité, je chasse au loin les « quand dira-t-on ?» Je chasse au loin tous mes raisonnements qui disent « non, mais c'est pas mon truc parce que… » Non, ils n'étaient pas en train de se poser toutes ces questions-là. Pour eux, c'était évident. Je fais un effort parce que j'ai la révélation dans mon cœur et dans ma tête que Jésus est là et qu'il nous demande de persévérer. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Qu'est-ce que Dieu les a enseigné, ses disciples ? Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Ok. Mais il leur a aussi enseigné à prier, à tenir bon dans les moments difficiles et à se focaliser sur les choses essentielles. Et alors que je vais appeler le groupe de louanges à remonter sur l'estrade pour interpréter ce chant, j'aimerais qu'on interprète justement ce chant qui dit « Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, convainc-nous de ta puissance. » Convainc-nous de ta présence au milieu de nous. Parce que ce peuple se meurt. Et peut-être que moi, je me suis refroidi. Et j'ai besoin d'un renouveau, d'un réveil. J'ai besoin d'une piqûre de rappel. J'ai besoin d'être bouillant pour toi. J'ai besoin de me mettre en disponibilité et de chasser tous mes raisonnements, de mettre de côté tous mes raisonnements et de dire, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui gères. Moi, je fais ma part. Je prie, j'intercède. 3 mots, 4 mots. Seigneur, tu bénis cette personne qui est malade au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de bénir ces personnes. Merci Seigneur mon Dieu pour l'œuvre que on fait. Merci Seigneur pour le pasteur. Merci Seigneur pour les leaders. Merci Seigneur pour les responsables. Merci Seigneur mon Dieu pour les conseils d'administration. Merci Seigneur pour ceux qui sont investis auprès des enfants, des jeunes, des ados. Merci Seigneur pour ceux qui vont évangéliser dans les rues. Merci Seigneur de préparer les cœurs. Seigneur mon Dieu, lorsque il y a des choses qui se passent. Tout ça se prépare dans la prière. Lorsque Douglas Scott est arrivé en France, c'était pas avec son français approximatif que les choses se sont passées. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des femmes qui étaient là et qui pendant des années priaient, année après année, décennie après décennie, et qui croyaient à ce réveil, et qui elles-mêmes étaient réveillées, et qui croyaient au réveil en France. Et elle persévérait. Alors persévérons dans la prière jusqu'à ce que ces murs soient trop courts, soient trop petits pour tous nous contenir, que nos mardis soirs et toutes nos réunions soient trop petites, que cette salle soit trop petite pour contenir toutes ces réunions-là. Et qu'on puisse avoir un local, un vrai, là où on peut investir, là où Dieu nous place encore. Faisons confiance en Dieu et en ses plans. Dieu a placé des hommes, des femmes, mais nous soyons répondants présents. Et si on a peur, et avec tous nos raisonnements, et on dit, mais c'est pas possible, mais Seigneur, j'ai trop de problèmes, et Seigneur, qui suis-je pour prier? Ou Seigneur, plein de choses sont des pensées négatives qui nous empêchent en fait de mener le combat. Nous servons le Dieu de victoire. Alors, entrons dans ce combat, dans la victoire.